Vous écoutez RTL.
RTL dimanche soir, le MacPol
avec Philippe Robuchon.
Le MacPol, le magazine politique de la rédaction de RTL, toujours avec Olivier Mazerolle. Bonsoir.
Bonsoir.
Du jamais vu depuis 80 ans, nous, Français, fâchés avec nos cousins italiens, ou plutôt nos dirigeants, fâchés avec les leurs. Comment en est-on arrivé là? Nouvelle preuve du délitement de l'Europe, où Emmanuel Macron a-t-il une part de responsabilité? On posera la question dans un instant à un spécialiste des relations internationales. Ce qui a déclenché cet énième coup de froid, c'est le soutien affiché de Luigi Di Maio à des gilets jaunes qui, en règle générale, respectent les grands débats organisés partout en France, ce qui ne les empêche pas parfois de venir se faire entendre lors des réunions publiques de certains politiques. Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, en a fait les frais jeudi à Colmar, RTL était dans la salle. Et puis Patrick Pouyanné, le PDG de Total, était l'invité du grand jury aujourd'hui. Il a reproché au gouvernement de vouloir aller trop vite pour mener la transition écologique. Le MacPol, c'est parti jusqu'à 19h.
Le MacPol.
La semaine d'Olivier Mazerolle sur RTL.
Olivier, au lendemain du 13e samedi de mobilisation des Gilets jaunes, vous vouliez revenir sur les violences qui ont encore émaillé certains rassemblements à Paris, Toulouse, Bordeaux ou ailleurs. C'est dramatique, à tout point de vue, d'abord au plan humain pour les blessés, au plan économique, on a vu aujourd'hui que les élus des grandes villes réclament une réunion d'urgence au gouvernement pour aider les commerçants. Selon vous, Olivier, il est temps de dire haut et fort que certains leaders du mouvement des Gilets jaunes portent une responsabilité dans ces violences.
Oui, ils sont deux, Éric Drouet et Max Nicole, alias Flyrider, qui multiplient les provocations, les déclarations ambiguës qui excitent et alimentent la violence. Tous les deux sont devenus des figures emblématiques du mouvement parce qu'ils sont omniprésents. Ils multiplient les tweets et les interventions sur Facebook. L'un comme l'autre se présente en angelot pacifiste et candide. Ce qui n'empêche pas Max Nicole, par exemple, de laisser entendre que l'attentat de Strasbourg avait été organisé par le gouvernement pour détourner l'attention. Le 29 janvier dernier, il s'est pris pour un clone du général de Gaulle, obligé de partir en exil pour continuer le combat contre un pouvoir totalitaire. Il avait donné 2 semaines à Emmanuel Macron pour se soumettre aux exigences des Gilets jaunes. Eh bien, l'échéance de l'ultimatum tombe mardi prochain. Il reste par conséquent 48 heures à Max Nicole pour préparer sa valise afin de prouver qu'il n'est pas un fort en gueule qui sonne creux.
Éric Drouet, lui, n'a jamais annoncé son départ, mais ce matin, il a menacé d'attaquer en justice une militante gilet jaune qui lui avait reproché sur LCI de favoriser le chaos.
Oui, et ça en dit long sur les convictions démocratiques du monsieur. Dès avant le 17 novembre, premier jour de manifestation, Éric Drouet proposait d'aller à l'Élysée. Plus tard, il a surenchéri en annonçant vouloir y entrer. À l'en croire, il s'agissait d'une démarche pacifique pour serrer la main du président. Non seulement c'est un bout de feu, mais il nous prend pour des imbéciles. Il refuse de déclarer les manifestations, sachant très bien que ça va lui permettre d'attirer les partisans de la violence. Cette semaine, il va comparaître en correctionnel pour avoir organisé rue Royale son interpellation qu'il avait provoquée en annonçant son intention d'y réaliser un gros coup à 2 pas de l'Élysée, une opération de com', il l'a d'ailleurs avoué.
Mais quelles conséquences, Olivier, cela a-t-il sur le mouvement des Gilets jaunes?
Eh bien, ces deux personnages, avec d'autres, qui disent comprendre les violences, naturellement, ils ne les provoquent jamais, ils les comprennent seulement, eh bien, ils dénaturent le mouvement. Les Gilets jaunes, d'origine, étaient des gens pacifiques qui n'avaient jamais manifesté. Ils ont en grande partie disparu parce qu'ils rejettent la violence et la manipulation. La violence, qu'encourage implicitement Max Nicole, Éric Drouet et consorts, nuit au mouvement. Elle relègue au second plan son aspect social et parallèlement, la casse fait monter dans l'opinion un désir de retour à l'ordre, ce qui n'est pas pour déplaire à Emmanuel Macron. Il y trouve un second souffle.
Merci Olivier Mazerolle. Cela a été un des événements de la semaine. La France a rappelé son ambassadeur à Rome, c'est du jamais vu hein, depuis Mussolini 1940, pour protester contre, je cite, des déclarations outrancières, des attaques sans précédent de certains dirigeants italiens. Après plusieurs mois de querelles, sur les migrants notamment, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est cette visite à Montargis de Luigi Di Maio, le vice-premier ministre italien, issu du mouvement 5 étoiles, venu apporter son soutien à des gilets jaunes, notamment à Christophe Chalençon, qui avait appelé, on le rappelle, à l'insurrection contre le pouvoir en France. Alors au-delà de ce coup de froid entre Paris et Rome, on finit par se demander si la politique d'Emmanuel Macron, si son attitude ne joue pas un rôle dans le durcissement de nos relations avec un certain nombre de dirigeants étrangers. Bonsoir Bertrand Badie.
Bonsoir.
merci d'être en ligne avec nous dans ce MacPol. Vous êtes politologue, spécialiste des questions internationales. Cette brouille entre Paris et Rome, ça n'est pas le premier accroc pour Emmanuel Macron à l'international. On a vu qu'il avait voulu séduire Trump. Bon, ça n'a pas très bien marché. En Europe, il s'est mis à dos des dirigeants d'Europe centrale. Voilà maintenant qu'il est fâché avec les dirigeants italiens. L'Italie, c'est pas rien quand même, hein. C'est notre deuxième partenaire commercial. Est-ce que ce n'est pas Emmanuel Macron, finalement, qui est responsable de tout ça ?
Non, le contexte international est peut-être le premier responsable. Que le président de la République ait commencé par quelques expériences malheureuses liées certainement à un manque d'expérience politique et diplomatique et une certaine naïveté, on l'a vu dans sa manière de recevoir Donald Trump, pensant qu'il suffirait de quelques gestes aimables pour l'amadouer, presque l'apprivoiser, pensant que distribuer du cher Bibi lorsqu'il a reçu Benjamin Netanyahu pourrait aider à un repositionnement favorable de la France au Moyen-Orient, tout ça c'était peut-être de la maladresse. Mais Emmanuel Macron a choisi un camp dès sa campagne électorale. C'était celui de la mondialisation, d'une vision qui est tout le contraire de ce néo-nationalisme qui a le vent en poupe aujourd'hui. Face à des leaders populistes comme Salvini ou Di Maio en Italie, ce discours est non seulement inaudible, mais source de contre-mobilisation. Et puis là où ça pourrait à la rigueur marcher, c'est-à-dire avec des partenaires qui ne sont pas dans cette doctrine nationaliste, je pense notamment à l'Allemagne et à Mme Merkel, là c'est plutôt l'affaiblissement politique de leaders qui auraient pu être de vrais partenaires, et affaiblissement politique qui est en grande partie dû à la montée du nationalisme. Donc vous voyez, tout n'est donc pas de sa faute, il a pu y avoir des erreurs sur le plan de la forme, mais sur le plan du fond, là il rencontre un contexte qui ne lui ressemble pas.
Monsieur Badi, vous avez prononcé son nom, Angela Merkel. Est-ce que le départ d'Angela Merkel pour Emmanuel Macron sera quelque chose qui va le mettre en grande difficulté ?
Alors, ça, c'est l'inconnu d'aujourd'hui. C'est-à-dire, d'abord, on ne sait pas qui va remplacer Angela Merkel. On ne sait pas dans quel contexte, dans quel rapport de force. On ne sait pas quel sera l'avenir de ce nationalisme allemand qui reste quand même très, très minoritaire. Cela fait partie des grandes questions qui vont alimenter l'analyse et le débat politique dans les prochains mois et probablement les prochaines années. Une chose est certaine. C'est qu'il n'y aura pas cette refondation de l'Europe s'il n'y a pas un partenariat fort et ravivé avec l'Allemagne. Aujourd'hui, plus que jamais. Pourquoi plus que jamais ? Parce que la Grande-Bretagne est dehors, parce que nos partenaires habituels sont plus ou moins ligotés par la rhétorique nationaliste, parce que l'Europe centrale et orientale est un point mort dans l'Union européenne aujourd'hui. Donc effectivement, l'axe Paris-Berlin est vital. Si ça repart, il y a une ouverture pour Macron. Si les élections nous emmènent vers d'autres destinées, alors là, effectivement, on va être pour le mieux dans un statu quo qui, déjà, en soi, est un cauchemar parce que le logiciel actuel de l'Europe ne fonctionne plus du tout.
Merci Bertrand Badi d'avoir été en ligne avec nous ce soir dans ce MacPol. Je rappelle que vous êtes politologue, spécialiste des questions internationales et vous êtes l'auteur avec Dominique Vidal de « Le retour des populismes, l'état du monde en 2019 » aux éditions La Découverte. Merci à vous.
Merci.
Olivier, commentaire ?
Oui, bah, Monsieur Badi n'a pas tort, effectivement. Personne ne peut dire qu'il n'y a pas de montée des nationalistes et que, finalement, la situation est très complexe. Et donc, Emmanuel Macron n'y échappe pas. Mais il faut reconnaître quand même qu'en dehors des petits gestes, Emmanuel Macron, il a sauté à pieds joints dans la lutte contre le nationalisme et dans le marais. Dans la lutte contre le nationalisme, en déclarant par exemple que les Italiens succombaient à la lèpre nationaliste, qu'ils se proposaient d'être le principal opposant à cette lèpre. Et M. Badi fait allusion à l'Allemagne. Oui, bien sûr, il a raison. Sauf que, justement, les Allemands, eux, ne veulent pas de ce combat-là parce qu'ils ne veulent pas la division de l'Europe. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron commence à comprendre qu'il a commis une erreur stratégique parce qu'il apparaît comme étant un diviseur et non pas comme un unificateur de l'Europe, lui qui est le chantre de justement de cette unité européenne. Et donc il revient un peu en arrière, il ne renie rien évidemment de son hostilité au nationalisme, et il a compris qu'il fallait peut-être le combattre autrement plutôt que frontalement. Et d'ailleurs, récemment, bah oui, il a fait un petit geste comme ça, c'est passé inaperçu. Mais enfin, il a fait décorer de la Légion d'honneur une des ministres de Viktor Orban.
En Hongrie, oui.
En Hongrie, et qui est d'ailleurs la vice-présidente du parti de Viktor Orban en Hongrie. Voilà, bah, les francophones et francophiles, c'était un bon prétexte, mais le geste a d'autres raisons.
On aura compris. Merci, Olivier. Dans un instant, on revient sur le grand jury de Patrick Pouyanné, le PDG de Total. À tout de suite.
RTL dimanche soir,
le MacPol avec Philippe Robuchon.
Pour une fois, ce n'était pas un politique qui était au grand jury ce dimanche, mais un grand patron, Patrick Pouyanné. Il dirige l'une des plus grandes entreprises françaises, Total, l'une de celles également qui a gagné le plus d'argent en 2018, plus de 13 milliards d'euros. Lorsqu'on lui a demandé au grand jury si d'ailleurs une entreprise comme la sienne n'avait pas une petite part de responsabilité dans la crise actuelle, en tout cas dans le sentiment d'injustice qui peut animer certains gilets jaunes, il a répondu plusieurs choses. D'abord, un, sur le prix des carburants, ce qui a tout déclenché. Il a précisé que Total gagnait aujourd'hui 1 centime par litre. Sur les bénéfices qu'a fait son entreprise en 2018, il a précisé qu'outre les actionnaires, bien sûr, les salariés de Total en ont vu la couleur, puisqu'ils ont reçu chacun une prime de 1500 euros. Enfin, sur le principe même de la transition écologique, il a estimé que le gouvernement s'y prenait très mal. Selon lui, il va trop vite.
Pour revenir sur le débat que vous avez lancé sur la taxe carbone, le prix de l'énergie, je pense que sur ce sujet-là, il faut qu'on réfléchisse collectivement à quel rythme voulons faire cette transition énergétique. La France a un avantage, c'est qu'on a une énergie pas chère, parce qu'il se trouve que nos anciens ont investi dans l'énergie nucléaire, et que finalement, aujourd'hui, quand je regarde la position de la France en taux d'émission de carbone par point de PIB, on est un des meilleurs pays au monde. Alors, une fois qu'on a cette position de départ, à quel rythme voulons-nous aller dans la transition
énergétique ? Nos gouvernants ont été trop pressés.
Moi, je pense, oui, je le dis, je pense qu'il faut du temps. On ne change pas des modèles énergétiques, tout ça, en claquant la note. D'ailleurs, je vous signale que l'Allemagne a annoncé vouloir sortir du charbon en 20 ans, en 5 ans, en 10 ans, en 20 ans. Nous, on est déjà sortis du charbon quasiment, et on a un avantage compétitif. Donc, je pense que dans tout cela, il faut qu'on arrive à convaincre les Français, pas simplement en montant des taxes, et pas en interdisant, par exemple, dans le débat des chaudières à fioul. C'est pas leur disant qu'il n'y en aura plus dans 5 ans ou elles seront interdites dans 10 ans. On peut leur démontrer qu'en passant avec des nouvelles technologies, soit de pompes à chaleur, soit de chaudières à gaz, soit de chaudières à bois, ils peuvent faire des économies réelles de l'ordre de 15 à 20% sur leur facture énergétique.
C'est-à-dire que la vie n'aura plus de chaudières d'ici 10 ans.
Si on leur démontre qu'on peut faire des économies, ils vont acheter l'idée qu'on peut faire évoluer leur système.
Vous êtes en train de dénoncer une forme d'écologie punitive ?
Je pense que profondément, l'écologie ne progresse côté des entreprises que s'il y a quelque part, elle accompagne un mouvement économique et technologique, et côté des citoyens que s'ils la comprennent. Mais d'ailleurs, sur le prix de l'énergie, c'est très vraiment typique. Les Français, ils nous disent quoi ? Oui, on veut une énergie propre, mais il faut qu'elle soit pas chère. Et on ne pourra pas leur imposer une énergie plus chère au nom d'un sujet qui est majeur, enfin, qui est le sujet du climat, mais dont ils ne ressentent pas l'urgence, malgré tout, immédiatement. Moi, si je fixe des objectifs irréalistes dans l'entreprise, les gens abandonnent, ils font rien. Faire de l'incantation, des objectifs inatteignables, c'est la non-action, la vérité.
Guillaume, pendant qu'on en est aux objectifs, remplacer toutes les chaudières à fioul, c'est atteignable ou pas atteignable ?
C'est atteignable en 20 ans, oui, je pense.
Pas en 10 ans.
Pas en 10 ans.
Non, pas en 10 ans, d'ailleurs.
Comme le gouvernement le
ministre avait pris le soin de dire que c'est un objectif ambitieux. Il est prudent.
C'est atteignable. Veut dire qu'il n'y croit pas lui-même ?
Quand il dit que c'est un objectif ambitieux, ça veut dire qu'il prend des précautions. Non, mais la vérité, c'est que c'est un bon sujet. Le marché des chaudières au fioul, il décline naturellement de 3 à 4% par an. Pour accélérer, vous avez quand même 3,5 millions de personnes qui se chauffent au fioul dans ce pays. 1 million, 1,5 million sont raccordables assez facilement au gaz naturel. Faisons-le. Il faut simplement, pour chacun d'eux, faire un investissement dans des nouvelles chaudières. C'est à peu près, disons, entre 8 et 10 000 euros. Il y a des aides. On est prêt nous-mêmes, Total, à compléter les aides par des prêts aux particuliers. Et surtout, on peut leur démontrer qu'ils peuvent faire des économies sur leurs factures.
À vous entendre, que ce soit sous Emmanuel Macron ou sous une présidence différente, rien n'a changé, alors que ce président nous avait promis qu'il serait plus en phase avec la réalité.
Non, je pense que beaucoup de choses ont changé. Il a voulu prendre des décisions courageuses. Il a mis sur la table plusieurs réformes, peut-être trop en même temps. Mais en tout cas, je pense qu'il a clairement donné une impulsion au pays. Et ça, de ce point de vue-là, l'étranger lui en sait gré.
RTL dimanche soir.
Le MacPol.
Benjamin Sportouche, RTL, Christophe Jacubizine, TF1, LCI, Guillaume Roquette, Le Figaro. Messieurs, exercice assez inhabituel. Hein, vous n'aviez pas aujourd'hui face à vous un politique, mais un grand patron, grande entreprise française, Patrick Pouyanné, Total. Qu'en avez-vous pensé pour ce qui peut nous rapprocher de la politique, j'allais dire ?
C'est vrai qu'au final, on a eu droit à une leçon de management politique. Mmh. C'est-à-dire que sur la manière dont il fallait mettre en place les réformes dans le pays, sur le fait que le gouvernement allait trop vite, n'écoutait pas les Français, on sent quelqu'un qui a ce goût-là. Il faut rappeler quand même qu'il a été membre de cabinet ministériel dans sa jeunesse, d'Edouard Balladur
et François Fillon.
Et on voit qu'il a l'expérience. C'est le vieux monde, au fond. Et c'est aussi la vision d'un grand patron qui sait qu'on n'obtient pas les choses en claquant du doigt, mais qu'il faut les expliquer, il ne faut pas aller trop vite.
Il faut du temps.
Il faut du temps. Et surtout aussi, on a eu droit à des leçons, au-delà du management, des leçons d'économie au gouvernement sur des réformes absurdes, sur surtout les politiques qui font de la politique, sur l'huile de palme, sur la transition écologique. Et en fait, il est très en colère, finalement, contre un pouvoir que pourtant il soutient, Emmanuel Macron, mais il y a quand même eu beaucoup de tacles pendant cette émission.
C'est pas l'opposant numéro un, Emmanuel Macron, finalement, on cherche. Non, mais c'est vrai, ça fait bien longtemps qu'on n'a pas eu un invité qui a démonté, argument à l'appui, de manière concrète, les décisions qui sont prises par Emmanuel Macron et qui sont même des décisions très simples. Les 80 km/h, il dit, bon, ça vient d'en haut, c'est ridicule. Le bonus-malus des CDD, bah, qui viennent diriger une entreprise et verront comment ça se passe, qu'ils nous laissent tranquilles. Voilà le cri du cœur de Patrick Pouyanné.
Du pragmatisme.
Oui. Alors, effectivement, on en a été un peu surpris. Je pense qu'il y a deux raisons à ça. La première, c'est qu'il se sent conforté par les gilets jaunes. Quand il dit c'est déraisonnable d'augmenter à ce point les taxes sur le carburant, c'est déraisonnable de vouloir interdire les chaudières à fioul, c'est justement le ressort de ce mouvement. Donc il tient un discours objectivement qui n'est pas très écolo-friendly, mais finalement c'est l'air du temps. Mmh. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir la puissance que peut être celle d'un patron du CAC 40, d'une entreprise mondialisée. C'est-à-dire que je pense qu'il y a encore 10 ans, un grand patron n'aurait pas osé parler publiquement comme ça, en disant on est en France, il faut faire attention, l'État c'est important, le gouvernement. Lui, de toute façon, l'essentiel de son activité, elle se fait en dehors de France et il a une liberté qu'on n'a effectivement pas toujours l'habitude d'entendre.
Alors c'est vrai qu'il est parfois, on peut un peu le soupçonner de ne pas être tout à fait neutre, effectivement. Mmh. Les gilets jaunes, quelle chance pour Total. C'est-à-dire qu'on a ralenti le rythme de la transition écologique, on va moins vite et donc en fait c'est une prime, une carte blanche aux pollueurs. Donc du coup, ça dérange moins le business de Total que la ligne politique était celle d'avant. Mais juste, quand même, c'est intéressant ce que dit Guillaume, parce que c'est vrai que on a peu l'habitude, mais c'est toujours le cas. C'est toujours le cas, Guillaume. Mais c'est vrai que c'est rare d'entendre une parole un peu rafraîchissante.
Rafraîchissant, mais en même temps, on voit bien aussi sur l'État-providence qu'il a une conception très libérale. Il l'a dit dans la première partie de l'émission, peut-être qu'on en fait trop. Il va falloir choisir entre moins d'impôts et plus de services publics. Voilà, ouais, il y a un choix à faire, il dit lui. Donc l'État-providence, vous êtes bien gentil, mais si vous voulez un confort de vie, ben, ça veut dire quoi d'ailleurs aussi? Que ça peut être une société plus inégalitaire. Attention, à plusieurs reprises, il dit égalitarisme, recherché par l'État, et non égalité. Tout cela, c'est un présupposé philosophique assez intéressant qui veut dire qu'on cherche trop l'égalité et peut-être pas suffisamment à laisser la liberté d'entreprendre à chacun.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il assume, par exemple, son niveau de rémunération, alors que ça se compte en millions d'euros. Alors, il donne, et c'est très malin, je ne sais pas pourquoi les patrons français ne font pas plus ça, il donne aussi son taux d'imposition.
43,6%.
Ce qui est assez logique, c'est le taux marginal. Vous me direz qu'heureusement, quand vous êtes à 2-3 millions d'euros, que vous êtes au taux marginal.
3 millions 8 par an.
Oui, 3 millions 8, pour être tout à fait précis. Alors, ce qui est vrai aussi, c'est que il a la chance d'être à la tête d'une entreprise prospère. Mmh. Et donc, par exemple, quand il dit les réformes, il ne faut pas vouloir aller trop vite, ça va parce que vous faites 13 milliards d'euros de bénéfices par an, donc évidemment, vous êtes assez détendu, assez serein. Donc, c'est peut-être un petit peu la limite de son argumentation, c'est qu'il y a une situation d'urgence en France, peut-être pas d'urgence climatique, en tout cas, lui, il n'y croit pas, mais d'urgence économique qui fait qu'il ne faut pas non plus être trop conservateur dans le côté ne prenant pas de risques.
Parfois, il était même un peu climato-sceptique, attention, il est là, il défend ses intérêts. Et Brune Poirson a quand même été une cible facile, la secrétaire d'État à l'écologie, puisqu'elle a tweeté, selon lui, alors qu'elle ne sait pas de quoi elle parle. Voilà en gros ce qu'il nous a dit.
On explique juste de quoi il s'agissait. On a découvert du gaz naturel au large de l'Afrique du Sud. Brune Poirson a dit découverte importante de drogue dure, sous-entendu Total n'a pas à se féliciter de ce genre de choses. Bon, voilà, il lui a répondu lors du grand jury.
Vertement.
Une dernière chose, je trouve qu'effectivement, il est aussi un peu intervenu dans le débat actuel sur c'est quoi l'acte 2 du quinquennat. Est-ce que c'est un acte 2 avec toujours les jeunes gardes? En fait, il trouve que Macron est un gamin, qu'il n'a pas l'expérience pour mener à bien les réformes qu'il plaide. Donc, est-ce qu'on continue avec ça, avec des jeunes chiens fous, ou est-ce que, de l'autre côté, on donne le pouvoir à l'expérience, peut-être au conservatisme, Jean-Yves Le Drian, Gérard Larcher, est-ce qu'on donne le pouvoir, au fond, à des gens qui vont arrondir, qui vont mettre les formes et qui vont peut-être, effectivement, repartir vers un petit peu d'immobilisme.
C'est pas demain qu'il y aura un quadragénaire à la tête de Total. Pour lui, c'est l'expérience qui compte, et donc l'âge aussi.
Vous voyez que finalement, ce grand jury, il était beaucoup plus politique qu'on ne pouvait le croire. Merci Benjamin Sportouche, Hertel, Christophe Jacobizine, TF1, LCI, Guillaume Roquette, Le Figaro. Olivier, on va revenir sur ce qu'on disait à l'instant sur la rémunération. C'est très rare qu'un grand patron avoue. Patrick Pouyanné a dit, voilà, je gagne 3 800 000 euros par an.
C'est plus que rare. C'est exceptionnel. Enfin, moi, je n'ai pas le souvenir de ça, d'un patron en France, en tout cas. Parce qu'ailleurs, à l'étranger, ça se fait plus régulièrement. Mais en France, où on n'aime pas parler d'argent, avoir quelqu'un qui, en plus, dans une situation quand même qui, socialement, est un peu tendue, disons, dans le pays, dit avec beaucoup de flegme, écoutez, voilà, je gagne 3 800 000 euros par an. C'est d'ailleurs un salaire qui est relativement faible dans l'univers qui est le mien. Dans les pays étrangers, mes équivalents gagnent beaucoup plus que ça. Et il dit, finalement, j'en parle, parce que j'ai pas de honte à avoir, et puis je pense que la transparence atténue les tensions. Eh ben, c'est vrai que quand on l'entend dire ça, on trouve pas ça...
Il dit quand même, je reconnais que ça puisse choquer.
Mais oui, mais il reconnaît que ça puisse choquer. Donc, quand il dit ça, on dit pas que c'est génial, on dit pas que c'est formidable, etc. Mais on le regarde différemment. On dit, ben voilà, un monsieur, au moins, qui joue franchement. Voilà. Patrick, c'est pas mal.
C'est rare, en tout cas, dans une émission politique. Alors Olivier, la semaine dernière, dans Smackpol, on avait suivi, vous en souvenez, François-Xavier Bellamy, la tête de liste des Républicains. Cette semaine, on a suivi une autre personnalité de droite, dont le rêve secret d'ailleurs est de faire mieux que les Républicains aux élections européennes, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Crédité d'environ 7-8% dans les intentions de vote, il n'est pas loin derrière les Républicains. Et même si son alliance avec Marine Le Pen à la présidentielle a fait le flop, il continue d'appeler à l'union des droites pour faire battre Emmanuel Macron. Autour de lui, ça va sans dire. Nicolas Dupont-Aignan ne ménage pas sa peine. En attendant, il est très présent sur le terrain. Rien que cette semaine, on l'a vu à La Réunion, en Gironde, en Île-de-France, dans le Grand Est. Yann Nicolan, notre correspondant en Alsace, l'a suivi. C'était jeudi soir à Colmar.
Comme un clin d'œil du destin, c'est dans la salle des Catherinettes à Colmar que Nicolas Dupont-Aignan tenait meeting. Celles qui n'ont toujours pas trouvé d'alliance à 25 ans. Nicolas Dupont-Aignan, lui aussi, est un peu seul pour ses européennes alors qu'il espérait une union très large.
Si on veut battre Macron, il faudra une alliance qui aille des Républicains au Rassemblement National en passant par Debout la France. Ça, c'est l'idéal. Monsieur Wauquiez croit qu'il peut gagner tout seul, Madame Le Pen croit qu'elle peut gagner tout seul.
Le ménage à trois n'aura pas lieu, mais l'idée maintenant, c'est de séduire les électeurs républicains déboussolés. Jean-Luc Masson, sénateur de Moselle et soutien de Nicolas Dupont-Aignan.
Moi, j'ai été dans le temps RPR, au moins le RPR, on savait où il était. Maintenant, il y a tout dans les Républicains. C'est vraiment les Galeries Lafayette, quelles que soient vos idées, vous trouvez quelqu'un qui a les mêmes idées que vous dans les Républicains.
Et c'est en restant fidèle à sa ligne que Nicolas Dupont-Aignan espère finir devant les Républicains. C'est son objectif affiché aujourd'hui.
Oui. Alors Yannick, pour réussir son pari, Nicolas Dupont-Aignan espère capter, entre autres, les voix des Gilets jaunes.
Et ça s'annonce compliqué. Ils étaient une quinzaine à être venus dans ce meeting pour l'écouter. Mais après 45 minutes de discours, les Gilets jaunes ne sont toujours pas convaincus. Quand Nicolas Dupont-Aignan donne le micro à la salle, il est très vite interpellé.
Et alors, Gilets jaunes, chatement, bonsoir. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? C'est ça qui nous intéresse, les solutions. Pas les problèmes qu'on les connaît, mais les solutions.
Nicolas Dupont-Aignan a beau reprendre ses arguments, qu'il renégociera les traités, que lui ne s'est pas mis à genoux devant Emmanuel Macron, les Gilets jaunes ne se laissent pas convaincre à l'image de Petra et Yolande.
Pas du tout, hein. C'est un gars, il parle de tous les soucis. Tous les soucis sont réels. Mais après, est-ce qu'il propose des solutions? Et les seules solutions qu'il a proposées, ce sont celles que nous avons mises en place, les Gilets jaunes. Mais il ne va jamais les réaliser.
Le problème, c'est que nous, on ne croit plus aux politiques. Bien sûr que ce qu'il dit, ce serait bien. Mais c'est irréalisable et il le sait.
À la sortie, un autre gilet jaune, Christophe, est lui aussi sceptique et pourtant, c'est un ancien militant de Debout la France.
J'ai soutenu Dupont-Aignan jusqu'à ce qu'il y ait eu le vrai faux mariage avec Marine Le Pen, où en fait, personne n'a compris. C'est sans doute un des moins mauvais. Mais en fait, on est beaucoup plus fort qu'eux maintenant. Le mouvement jaune est beaucoup plus fort que tous les politiciens. Il faudrait qu'ils réfléchissent quand même.
Et pour le rappeler à tous les hommes politiques, les Gilets jaunes alsaciens ont prévu de participer à tous les meetings de ces européennes dans le secteur.
Un reportage, Yannick Collant à Colmar, Olivier. Nicolas Dupont-Aignan, il peut jouer un rôle aux européennes,
Il l'espère, en tout cas. Bon, on verra bien. Moi, ce qui m'a frappé, là, quand même, c'est d'entendre un gilet jaune expliquer que Nicolas Dupont-Aignan ne faisait que reprendre les propositions des Gilets jaunes, mais qu'il savait que c'était inapplicable. Très bien.
la lucidité de certains gilets jaunes parfois sur les propositions qu'ils font. Olivier, il est 18h58, on n'a pas trop le temps de dégrainer l'agenda politique de la semaine. Il y a un événement peut-être sur lequel on va attirer votre attention.
Gilets jaunes cette semaine.
Voilà, il y a plusieurs rendez-vous judiciaires.
Le boxeur d'abord, mercredi.
Christophe Détinger, voilà. Le boxeur qui avait...
Voilà. Et puis notre ami Éric Drouet,
vendredi.
Voilà. Pour l'histoire de la rue Royale.
Exactement, dont vous nous avez parlé tout à l'heure. On suivra ça de très près. Merci Olivier pour le MacPol de ce soir. Dans un instant, les infos de 19h. Juste après, dans les dessous de l'écran, l'émission média de RTL, on va vous parler d'un documentaire très impressionnant qui sera diffusé mercredi sur Canal+. Témoignage d'anciens otages des talibans, des FARC, d'Al-Qaïda. On va recevoir notre confrère Michel Perard, ancien grand reporter à Match, qui lui-même a été détenu par les talibans. C'est lui le réalisateur de ce documentaire. Et puis dans Autoradio avec Christophe Bourreau, juste après, ambiance bidon d'huile et vieille bagnole. Le salon rétromobile vient de fermer ses portes. On va évoquer un livre très attachant, plein de nostalgie, qui s'appelle Garage de nos régions. A tout de suite.
Le MacPol,
RTL dimanche soir.